La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête.
Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête.
Carré.
En attendant de parler de climat demain dans la tête au carré, aujourd'hui c'est l'accident vasculaire cérébral qui nous intéresse, une maladie encore mal connue du grand public et qui concerne pourtant chaque année 150 000 personnes en France. Longtemps considérée justement comme la maladie des hommes de plus de 70 ans, il s'agit en réalité de la première cause de mortalité féminine dans le monde. Les médecins assistent même en ce moment à une augmentation du nombre d'AVC chez les moins de 65 ans. Tout le monde serait concerné, il n'y aurait pas d'âge pour faire un AVC, différents signes doivent alerter comme les faiblesses ou la paralysie d'un membre, une perte de sensibilité. Et c'est toujours l'urgence qui prime face à la découverte des premiers symptômes. Le dossier de la tête au carré, donc consacré, vous l'aurez compris, à l'accident vasculaire cérébral pour en comprendre les manifestations et les différentes formes. Et j'attends dès maintenant toutes vos questions, vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, une drôle de molécule qui fait tourner les larves de mouches en rond.
Oui, et qui surtout les rend asymétriques, une caractéristique capitale du vivant très mal comprise par les biologistes. On entre dans le monde bizarre de la chiralité dans un instant, ça s'appelle comme ça.
Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Sophie Crozier.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes neurologue, praticien hospitalier dans le service des urgences cérébrovasculaires de la Pitié-Salpêtrière. Contrairement à ce qu'on a pensé longtemps, il n'y a donc ni âge ni sexe pour faire un AVC?
Oui, oui, tout à fait. L'accident vasculaire cérébral peut survenir aussi bien dans l'enfance, même si c'est extrêmement rare, ouais. Dans l'adolescence également. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est quand même surtout une pathologie du sujet âgé, donc après 70 ans. Mais on a 25% des personnes qui peuvent faire un accident vasculaire cérébral avant 65 ans.
Et donc, les hommes comme les femmes.
Hein. Et tout à fait.
Ouais, 150 000 personnes donc concernées en France chaque année. Vrai problème de santé publique. On va voir avec vous justement comment repérer les premiers signes, c'est très important de le savoir, et puis comment se fait ensuite la prise en charge et le suivi. Et vous allez répondre donc, Sophie Crozier, à toutes les questions des auditeurs qui nous rejoignent, les témoignages également sur le site de la Tête au Carré. On se retrouve dans quelques minutes, à tout à l'heure. Axel Villard, on s'intéresse cet après-midi à la une de la science à une caractéristique omniprésente dans le vivant. Il s'agit de l'asymétrie en deux mots.
Oui Mathieu, en deux mots. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le fait de ne pas être parfaitement symétrique est capital dans votre vie à vous, tous
oui,
les jours.
Bon, et alors pourquoi exactement?
Si par exemple quelqu'un vous trouve beau, c'est parce que votre visage n'est pas parfaitement symétrique. Si votre cœur bat correctement, c'est qu'il est à gauche dans votre poitrine. Les brisures de la symétrie font partie du vivant et pourtant les biologistes ont beaucoup de mal à comprendre d'où elles viennent. Une équipe française vient de faire un grand pas en avant dans ce domaine et a réussi à rendre des mouches artificiellement asymétriques, en deux mots. Une belle découverte dont on discute avec l'auteur de ces travaux, Stéphane Noselli. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes généticien, directeur de recherche de classe exceptionnelle pour le CNRS et directeur de l'Institut de biologie Valrose à Nice. Alors avant de nous expliquer ce que vous avez fait à ces petites mouches du vinaigre, expliquez-nous pourquoi ces histoires de symétrie et d'asymétrie sont un si gros casse-tête pour vous les biologistes.
Alors avant de parler de biologie, je voudrais dire simplement que l'asymétrie est effectivement, comme vous l'avez dit, un caractère omniprésent, universel, qui se trouve à toutes les échelles de l'univers, des particules constituant les atomes, aux molécules, aux galaxies elles-mêmes, à l'origine de l'univers, mais bien sûr, ça concerne aussi beaucoup les organismes vivants, ce sont toutes ces questions. Et effectivement, les questions que nous nous posons au laboratoire sont de connaître et de déterminer quelles sont les origines, les mécanismes qui permettent l'émergence de la symétrie, mais aussi à quoi ça peut bien servir chez les organismes vivants et bien sûr chez l'homme.
Alors, quelles sont les échelles de cette asymétrie qui vous intéresse dans les corps, dans les mouches, dans les humains?
Alors, une caractéristique des systèmes vivants est que l'asymétrie, en fait, se décline à diverses échelles, de l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle cellulaire. Ensuite, les cellules elles-mêmes permettent la constitution d'organes ou de tissus. Et ensuite, il y a une autre échelle, l'échelle terminale, qui est l'échelle de l'organisme entier. Mmh. Donc on s'intéresse, en fait, une des grandes questions qui est posée par la symétrie dans le domaine de la biologie est de savoir si les asymétries qui existent au niveau moléculaire sont en fait responsables des asymétries macroscopiques qu'on observe en fait aux échelles plus grandes, comme l'organisme ou les organes pris individuellement.
Quand on est à l'échelle moléculaire, qu'est-ce qui prime ? C'est les molécules symétriques ou asymétriques alors ?
En fait, peu de personnes le savent, la vie est basée sur une très très forte asymétrie, sachant que les molécules constitutrices, les briques qui constituent la vie, qui sont les acides aminés par exemple, peuvent exister sous deux formes, qu'on appelle droite ou gauche, ou dextrale ou sinistrale. Et il faut savoir que la vie, les protéines, ne sont constituées que d'éléments qui sont dits gauches, ce qui représente quand même une des plus grosses énigmes en fait de la vie, pour laquelle nous n'avons pour le moment pas d'explication disons pertinente. Et donc la question, je répète, qui était posée, était de savoir si ces asymétries au niveau donc des protéines, des acides aminés et des molécules constituant la vie étaient effectivement visibles et répercutées au niveau des structures plus importantes.
Alors expliquez-nous ce que vous avez fait avec ces petites mouches du vinaigre alors.
D'accord. Donc la mouche du vinaigre, hein, c'est un petit peu la petite reine des laboratoires. C'est un modèle génétique qui est étudié depuis plus de 100 ans, qui a donné lieu à 6 prix Nobel, dont un prix Nobel français en 2011. Donc c'est un organisme qui nous permet de mieux comprendre la vie en général, la biologie, mais aussi tout ce qu'on peut découvrir, ou la plupart de ce qu'on peut découvrir sur la drosophile, en fait, est applicable aux vertébrés dont l'homme. Mm-hmm. Donc ce que nous avons réalisé les années précédentes, c'est que nous avions découvert une molécule qui s'appelle myosine 1D, qui fait partie d'une super famille de molécules qui s'appelle donc les myosines, qui sont des petits moteurs moléculaires. Et nous avions pu montrer que cette myosine était absolument très importante pour contrôler la symétrie droite-gauche chez la drosophile. Oui. C'est-à-dire, c'est elle qui contrôlait le positionnement des organes à gauche ou à droite de l'individu, ou qui était responsable du développement hélicoïdal, toujours dans le même sens, d'autres organes comme l'intestin. Et nous avons pu montrer récemment, en collaboration avec deux équipes, que cette protéine était en fait conservée, avait un rôle qui était conservé chez les vertébrés, chez des modèles vertébrés. Donc ce qui disait qu'effectivement c'était une molécule clé. Et ce que nous avons pu réaliser dans l'étude présente, c'est que nous avons pu montrer, en collaboration avec un groupe américain, que cette myosine en fait était non seulement nécessaire pour l'établissement de la symétrie droite-gauche, mais en fait elle était suffisante pour déclencher des asymétries de nouveau. Donc je m'explique. Oui. La façon dont nous avons pu montrer ça, c'était nous avons pu mettre cette protéine dans des tissus où elle n'était pas normalement présente. Hein, par exemple, des trachées. La petite mouche a des trachées qui sont parfaitement rectilignes et parallèles. Si nous mettions maintenant cette protéine au niveau de ces trachées-là, il était possible donc de transformer ces trachées en structure hélicoïdale, d'accord, extrêmement perturbée, indiquant donc que effectivement cette myosine avait le pouvoir absolument unique de transformer à peu près n'importe quelle structure en structure asymétrique.
Mais on voit aussi des résultats à l'échelle de l'individu, mais parce que le comportement de ces larves de mouches que vous avez modifiées, dont vous avez modifié la peau, lui aussi est changé, il change sa manière de se déplacer.
Tout à fait, vous avez raison. Et en fait, ça c'est un deuxième aspect en fait de l'étude, que l'étude nous a révélé, qui est qu'on s'est rendu compte que cette protéine, cette myosine, non seulement était capable d'induire de l'asymétrie au niveau moléculaire, puisque nous avons montré qu'elle était capable d'interagir avec le squelette de la cellule et de faire en sorte que ce squelette, maintenant, avait un développement en spirale. Et nous avons pu montrer que ce développement spirale du squelette entraînait à son tour un développement aussi orienté des cellules qui constituaient les tissus, en particulier l'épiderme, comme vous l'avez mentionné, et qui entraînait par un effet cascade ou un effet domino la rotation ou la torsion du corps entier de la larve. Et ce qui a entraîné ensuite un comportement aberrant de la larve, un nouveau comportement locomoteur qui fait que la larve, au lieu de se déplacer comme une chenille, chose que tout le monde peut voir et imaginer, la larve se déplace maintenant en faisant des tonneaux répétés.
Elle tourne sur elle-même.
Elle tourne sur elle-même, elle vrille sur elle-même. Ouais.
Est-ce qu'il y a une incidence sur l'espérance de vie de ces petites mouches, le fait de les rendre artificiellement asymétriques, justement, Stéphane Nozelli?
Alors justement, c'est une bonne question. Justement, c'est un petit peu la beauté du système. On peut montrer que on peut manipuler l'expression de cette protéine chez la mouche. On peut l'exprimer à peu près n'importe où. Ça n'a aucune incidence à la fois sur son espérance de vie ni sa fertilité. La seule chose qui est transformée, c'est vraiment l'état, le passage d'une symétrie à une asymétrie.
En quoi ça peut être intéressant de maîtriser ou en tout cas de contrôler l'expression de ces gènes d'asymétrie, par exemple chez l'homme, si on utilisait ces molécules dont vous parlez ?
Alors, l'intérêt d'un travail fondamental sur des modèles génétiques, c'est effectivement de répondre à la question de comment ça marche.
Oui.
Donc là, avec l'identification de cette protéine, on est capable de mettre en évidence, effectivement, une molécule clé, d'accord, qui est, dont le rôle est conservé chez les vertébrés, comme je l'ai dit, et qui est probablement conservé chez l'homme, mais là, il reste un pas encore à franchir avant de le démontrer. Et donc, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir identifier des molécules qui sont potentiellement des molécules qu'on pourrait utiliser dans un diagnostic. Et donc, comme ça, anticiper ou mieux comprendre les pathologies associées, en fait, au défaut d'acide miscellulaire gauche.
Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Nozelli. Donc, on a bien compris que le grand mystère, c'était de comprendre pourquoi il y avait cette asymétrie à gauche, hein, c'est ça, dans la nature, un des grands mystères de la science, en tout cas, à résoudre. Merci pour vos explications. Et puis, Axel, on se retrouve demain.
À demain, Mathieu.
Pour une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, au temps des dinosaures vivait, paraît-il, un très gros mammifère, une découverte très étonnante qui nous vient d'une équipe polonaise qui décrit dans une revue un fossile partiel de Dicynodonte, l'animal de 9 tonnes, armé de deux défenses, ressemblait sûrement à un rhinocéros à tête de tortue. Mais la plus grande surprise de cette découverte réside dans l'âge du mammifère. Il aurait en effet vécu il y a 230 millions d'années, au milieu donc des dinosaures, alors qu'on croyait que seuls de tout petits mammifères existaient à cette époque. Une information sur laquelle nous reviendrons cette semaine avec un spécialiste pour en savoir plus. Détecter l'eau dans l'atmosphère des exoplanètes, une équipe de l'observatoire Keck à Hawaï, possédant le plus grand télescope au monde, pense avoir détecté la présence d'eau autour d'une planète située à 179 années-lumière de nous, en alliant deux techniques de pointe de l'imagerie, l'optique adaptative et la spectrométrie, une méthode qui fait ses preuves aujourd'hui et promet de belles déductions à venir lorsqu'elle sera utilisée sur un futur instrument encore plus grand et en cours de construction toujours à Hawaï. Et puis lorsqu'ils ont très faim, les escargots d'eau douce jouent à la roulette russe en temps normal. Ces animaux sont plutôt prudents et mangent les déchets des plantes qu'ils trouvent au fond de l'eau. Mais lorsque la nourriture manque, ils se mettent à manger un peu tout et n'importe quoi au risque même de s'empoisonner. Un changement de comportement que des chercheurs américains ont réussi à localiser dans le cerveau de l'escargot et à manipuler simplement par l'action de quelques neurones. Allez, dossier consacré à l'AVC dans un instant avec notre invitée Sophie Croisier.
Dance in my underpants. I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. I fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Such beautiful photography,
It's worth it for the open scene. I've been driving round, listening to the score. Or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought.
One Point Perspective, c'était Arctic Monkeys.
La tête au carré.
Ça m'est arrivé un matin, alors que je préparais mes filles pour les emmener à l'école. Je me suis sentie bizarre, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, et en fait, je suis tombée, et j'étais déjà hémiplégique, et c'était l'AVC, quoi. Mais en fait, j'ai eu une alerte que je n'ai pas su interpréter parce que je n'avais pas été informée, je ne savais pas ce que c'était. Dans mon travail, donc dans un avion, en revenant d'un long courrier d'Amérique Nord, en traversant l'avion, j'ai perdu la vision d'un œil. Comme si je m'étais mis la main devant l'œil, et ça m'a fait vraiment une sensation bizarre. Je me suis dit, oh là là, c'était un vol de nuit, un long vol, fatigant, donc j'ai pensé que c'était simplement un petit coup de fatigue. C'est tout. Et en fait, c'était un accident ischémique transitoire, donc qui annonçait l'AVC. Et l'AVC, bon, je pense que j'ai dû le faire dans le mois qui suivait.
Isabelle Florentin, c'est son nom, 36 ans donc au moment de son AVC. Elle est aujourd'hui présidente de France AVC VAR, l'accident vasculaire cérébral. 150 000 personnes donc victimes chaque année. Problème de santé publique évidemment, qui peut potentiellement d'ailleurs tous nous concerner. C'est le dossier cet après-midi avec vous de la tête au carré, Sophie Crozier. Vous êtes neurologue, praticien hospitalier donc dans ce service des urgences cérébrovasculaires de la Pitié-Salpêtrière. On va voir avec vous donc ce qui caractérise un AVC, les soins, le suivi bien sûr avec l'urgence médicale qui est au cœur de cette maladie. Dit. Et puis bien sûr, vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent déjà très nombreux sur le site de l'émission. Beaucoup de questions, de témoignages pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On peut d'abord peut-être rappeler ce qu'est tout simplement l'AVC, hein, parce que certains ont du mal aussi à savoir exactement ce qui se cache derrière ces trois lettres. Hein.
Alors l'accident vasculaire cérébral, AVC, ça peut être soit lié à une artère qui se bouche, et à ce moment-là on appelle ça un accident ischémique, donc ce qui est arrivé à la personne qui vient d'intervenir.
Mmh, très fréquent
donc,
ça dans...
Très fréquent, 80% ouais. Des accidents vasculaires cérébraux sont des accidents ischémiques, en fait c'est l'équivalent de l'infarctus du myocarde mais au niveau du cerveau.
Ouais.
Donc, et ça peut aussi effectivement être transitoire comme ça vient aussi d'être rappelé.
On puis, peut appeler ça l'infarctus cérébral d'ailleurs.
Oui, on appelle tout à fait. Très souvent maintenant, on appelle ça l'infarctus cérébral. Mmh. Et puis, dans 20% des cas, à l'inverse, c'est une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire que là, c'est une artère qui se rompt et qui entraîne un hématome au niveau cérébral.
Donc là, c'est 20% des cas.
Hein. Tout à fait.
C'est ça. Donc on a ces deux formes-là,
oui.
Uniquement. Ça forme donc la.
Oui, alors dans de très rares cas, ça peut être les veines aussi qui se bouchent. Là, c'est moins de 5% des situations où on peut avoir des veines qui se bouchent.
Dans le premier cas, donc dans le plus fréquent, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau avec le blocage de la circulation pour qu'on comprenne bien exactement les circuits empruntés?
Alors c'est une question très importante puisque toutes les cibles thérapeutiques vont aussi dépendre du mécanisme et de la façon dont ça survient. Quand une artère se bouche, il y a une région cérébrale qui est irriguée par cette artère qui va être moins bien perfusée. Et puis plus le temps passe, plus cette région va finalement en termes de survie va devenir de plus en plus importante. Donc
ouais.
Au début, on a une toute petite zone d'infarctus, donc de région qui est vraiment totalement abîmée et en général qu'on considère comme irréversible. Au bout de 10-20 minutes, il y a une région qui est définitivement abîmée. Mais elle peut être toute petite, cette région, au tout début, parce que tout autour, il peut y avoir une grande région qu'on appelle la région de pénombre, où c'est une hypoperfusion. Donc qui est aussi lié à cette artère qui est bouchée, mais qui heureusement continue ça circule encore un petit peu parce qu'il y a ce qu'on appelle des collatéraux. latérales, donc des artères, d'autres artères
c'est
du
d'autres
cerveau
circuits,
qui compensent
finalement.
Un ouais. maximum. Et d'ailleurs, ça peut, c'est souvent cette, c'est pour cette raison qu'il y a des poussées d'hypertension à la phase aiguë de l'accident vasculaire, ce qui permet aussi à toutes ces petites artères qui sont autour de reprendre en charge pendant un temps. Mais ça, cette situation-là, elle est très instable et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de pouvoir intervenir vite pour restaurer une circulation correcte.
Donc il y a la sollicitation de ces circuits secondaires, on pourrait presque expliquer ça comme ça, mais qui n'est pas durable en fait.
Et qui n'est pas durable. Alors chez certaines personnes, elle peut l'être. D'ailleurs, ça peut être quasi asymptomatique et elle peut l'être un peu puisque... on peut expliquer les accidents ischémiques transitoires par ce mécanisme. C'est-à-dire que la survenue d'un accident ischémique transitoire, c'est quand l'artère se bouche, mais que les symptômes durent pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le plus souvent, c'est très court. Soit c'est parce que l'artère se débouche, soit c'est parce que il y a une suppléance, donc des collatérales qui sont relativement efficaces.
Ouais, le tissu cérébral justement qui est lésé, sa destruction est très rapide. C'est vraiment un processus qui va vite là. C'est la raison pour laquelle il faut aller très très vite là aussi.
Tout à fait. Ouais. Ce qu'on considère qu'au bout de 10 minutes, en général, l'absence d'apport d'oxygène pour le cerveau est très très délétère.
Ouais, alors 150 000 personnes en France, c'est ça, je le disais tout à l'heure, ça correspond à une personne toutes les 4 minutes si on fait le calcul de cette façon-là.
Tout à fait.
Donc c'est quelque chose qui est très fréquent évidemment. Combien d'hospitalisations alors et combien de décès si on fait juste un tout petit peu d'épidémiologie pour comprendre?
Alors on estime que chaque année, parce que maintenant on commence à avoir des registres, il y a 110 000 personnes qui sont hospitalisées en France pour un accident vasculaire cérébral et 30 000 personnes décèdent chaque année des suites d'un accident vasculaire cérébral. Ce qui en fait effectivement la troisième cause de mortalité chez l'homme et la deuxième, voire la première cause de mortalité chez la femme maintenant dans le monde.
Oui, c'est ça. En France, c'est la deuxième, vous me le disiez tout à l'heure en antenne, après le cancer et le problème du tabagisme principalement. Oui. D'ailleurs, les choses sont parfois reliées aussi entre le tabac et l'AVC.
Oui, tout à fait.
C'est deux choses qui ne sont pas totalement déconnectées.
Tout à fait, effectivement. Dans les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, on a principalement l'hypertension artérielle, on y reviendra effectivement sur la question de la prévention, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, le diabète, et puis évidemment tout le surpoids aussi qui est devenu un problème de santé publique majeur.
Ouais, il y a beaucoup de messages aussi ces derniers temps sur l'AVC chez la femme précisément. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'il y avait cette idée reçue dont on parlait tout à l'heure. C'était vraiment cette maladie des hommes de plus de 70 ans, en très grande majorité. Mais non, ce n'est pas le cas du tout.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs explications. Une première explication, c'est que les femmes, maintenant on a une espérance de vie qui est quand même assez importante et de la prévention, une amélioration aussi de la prévention, mais du coup les femmes qui font quand même en général des accidents vasculaires cérébraux sont souvent assez âgées, donc une des premières explications c'est la longévité aussi, c'est qu'on voit des patientes qui ont 90, même des centenaires, ça c'est une des premières explications. Et puis deuxième explication, c'est une explication hormonale, il y a deux choses, c'est que les œstrogènes en particulier peuvent avoir un effet effectivement sur la coagulation et notamment pour les personnes, et ça c'est les femmes plus jeunes, la prise de stroprogestatif, pas toute seule, je rassure les auditrices, mais en association avec le tabac, ça c'est vraiment un très mauvais cocktail. Et puis surtout chez les femmes migraineuses, on est particulièrement vigilant en tout cas sur les conseils
le
pour l'arrêt du tabac.
Le mode de vie aussi, les conditions de vie, le stress en particulier, le fait de fumer, d'accord, mais le stress aussi, ça peut favoriser ce type d'accident?
Oui, alors tout à fait. Alors, il y a pas mal d'études qui sont sorties ces dernières années, notamment pour l'infarctus du myocarde, puisqu'on a observé au cours de ces dernières années que l'infarctus du myocarde pouvait survenir chez des hommes très jeunes, sans aucun facteur de risque. Et de la même façon, on commence à avoir des études dans l'accident vasculaire cérébral, effectivement, qui montrent que l'accident vasculaire peut survenir indépendamment de facteurs de risque. Alors, il y a quelques hypothèses, soit parce que en fait, le stress peut entraîner des spasmes artériels, soit parce que ça peut augmenter un peu l'épaisseur du sang aussi, augmenter ce qu'on appelle la viscosité sanguine. Donc c'est un facteur de risque très important qui est pas forcément très modifiable, donc c'est difficile aussi, parce que mais c'est un élément important à prendre en compte.
La ménopause, est-ce que c'est pour la femme en tout cas un moment charnière aussi de sa vie?
Oui, tout à fait. Oui. La ménopause est aussi un facteur de risque à cause du déséquilibre hormonal qui est provoqué. Donc ça peut être un facteur de risque. La grossesse aussi, pour certains types d'accidents, mais c'est principalement en fait quand il y a des problèmes d'hypertension artérielle dans la grossesse.
Alors Sophie Crozier, beaucoup de messages des auditeurs. Je vous le disais. Annick, par exemple, qui demande est-ce que l'hérédité concerne justement cette maladie? Est-ce qu'il y a des moyens de prévention? Alors, beaucoup de questions, évidemment, sur les signes avant-coureurs, sur la prévention.
Alors,
sur l'hérédité d'abord.
Sur l'hérédité, hein. Il n'y a pas de gène de l'accident vasculaire cérébral. Il y a sûrement des terrains, mais c'est polygénétique. Donc, on ne dira pas que c'est une maladie du tout héréditaire. En revanche, on sait qu'il y a effectivement des familles où il y a un terrain qu'on appelle un terrain vasculaire. Effectivement, les personnes qui ont des antécédents dans leur famille d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus du myocarde doivent quand même être surveillées. Et là, on peut effectivement faire de la prévention et notamment bien corriger les facteurs de risque. Ouais. Donc ça, c'est un élément absolument majeur. C'est le contrôle des facteurs de risque et en premier lieu, le contrôle de l'hypertension artérielle qui parfois est connue, parfois ne l'est pas, mais même quand elle est connue, reste vraiment sous-traité encore en France, comme dans tous les pays occidentaux d'ailleurs. Ouais. Mais c'est un enjeu majeur.
En tout cas, c'est une maladie qui suscite beaucoup d'inquiétudes, hein, on le sent bien, de la part du public, chacun essayant justement de prévenir le plus possible, interprétant d'ailleurs parfois les signes, d'ailleurs pas forcément de la bonne façon, mais il y a en tout cas une espèce de prise de conscience très forte autour de l'AVC. Vous le constatez aussi?
Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je pense que la fréquence de l'accident vasculaire cérébral fait qu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral, et ensuite, dans la mesure où l'accident vasculaire cérébral touche une région qui est la région du cerveau, peut entraîner un handicap qui soit moteur ou cognitif. Effectivement, on peut comprendre qu'il y a une certaine inquiétude, puisque ça peut évidemment avoir pour conséquence une perte de l'autonomie de la personne. Oui.
On a reçu dans cette émission, au tout début de la Tête au Carré, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, la chimiste Brigitte Proust, qui nous avait parlé entre autres de la chimie des odeurs, la chimie des parfums. Je me souviens très bien de ces émissions. Et puis on l'a recroisée quelques années plus tard, pour les 10 ans d'ailleurs de la Tête au Carré. Elle était en fauteuil roulant et elle vient publier justement le manuel de reconstruction à l'usage des personnes victimes d'un AVC. Donc le titre est positif parce qu'elle dit beaucoup de choses aussi sur son parcours. Elle décrit ce qui s'est passé en 2014 en particulier. Tout allait bien ce matin-là, un peu engourdi dans son lit en se réveillant. Son mari lui prépare le petit déjeuner, elle se lève avec des difficultés, elle se sent molle. Elle le rejoint dans la cuisine pour prendre le couteau à main et préparer des tartines. Le couteau lui échappe des mains, d'ailleurs elle ne sent plus le contact avec le manche. Son mari constate que sa bouche est tordue, qu'elle émet des sons incohérents. Et tout de suite, il pense à l'AVC. Donc, il diagnostique exactement ce qu'il faut. Il appelle évidemment le SAMU. Elle proteste. Elle a une réaction justement de protestation par rapport à ça. Et heureusement qu'il a été très rapide. Le reste est un film en accéléré. C'est ce qu'elle décrit dans ce livre. Le SAMU, les pourparlers pour trouver un service d'urgence. Et comme nous en sommes encore au début septembre, un dimanche, la décision de l'emmener à l'hôpital Foch de Suresnes est vite prise. Donc ça, c'est son premier AVC. Tout se passe à peu près bien. Elle décrit tout le processus justement de récupération, ensuite de réadaptation. Ces semaines justement avec des kinésithérapeutes, au fil des exercices, la confiance qui reprend. Et puis à peine quelques mois plus tard, deuxième AVC, beaucoup plus grave celui-là. Et donc, c'est fréquent justement, Sophie Crozier, d'enchaîner ces événements de cette façon-là, ou c'est quelque chose au contraire de très rare?
Alors c'est pas fréquent, c'est peut-être pas très rare, mais c'est pas fréquent. On estime que le risque de récidive est environ de 5% par an, et ensuite ça dépend de la cause retrouvée. L'objectif de la prise en charge, on va en parler, mais c'est d'une part le traitement de phase aiguë pour éviter un maximum les dégâts cérébraux, et donc limiter le handicap et la mortalité, et puis ça va être évidemment la recherche de la cause pour éviter une récidive. Donc actuellement, on fait tout pour mettre en place un traitement qui va éviter une récidive, mais malheureusement, dans certains cas, effectivement, la récidive peut survenir malgré un traitement bien conduit et adapté. Ça peut arriver, mais ça c'est quand même assez rare, il faut avouer, soit parce que le traitement n'est pas forcément adapté, parce qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence la cause au tout début de la prise en charge.
On en reparlera de cet ouvrage parce qu'il y a des messages très positifs aussi pour les aidants. C'est important parce qu'ils ont un rôle à jouer. C'est Brigitte Proust donc qui le publie. C'est chez HD Témoignages. Vous êtes notre invitée Sophie Crozier, l'AVC avec les messages des auditeurs.
Dans la longueur vague du matin, le temps s'étire. Des jours anciens.
À l'heure de la sieste, tu peux dormir, c'était Barbara Carlotti.
La tête au carré sur France Inter.
Sophie Crozier, neurologue, notre invitée cet après-midi pour parler de l'accident vasculaire cérébral et beaucoup de messages, de questions pour vous, en particulier sur les symptômes, hein, les signes d'alerte. Évidemment, c'est ce qu'il faut repérer le plus tôt possible. Anne d'abord demande si un soupçon d'AIT, alors c'est un accident ischémique transitoire, est un pas vers l'AVC.
Alors c'est une très bonne question et qui est très importante, puisqu'on sait actuellement que dans 30% des cas d'accident constitués, donc une fois que l'infarctus cérébral est vraiment constitué. Dans 30% des cas, ça peut être précédé d'un accident transitoire.
C'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans le sujet avec cette jeune femme de 36 ans qui disait dans l'avion, j'ai eu un voile
sur
l'œil.
Tout à fait. Donc ça peut être effectivement comme l'impression d'avoir un voile qui tombe sur l'œil. Ça peut durer quelques secondes, voire quelques minutes. Et ça, c'est un élément très important, où ça peut être un trouble du langage, où ça peut être une perte de force d'un côté, ou un trouble de sensibilité, une déviation de la face. Enfin, tous ces symptômes qui surviennent de façon brutale, qu'ils durent plusieurs heures ou qu'ils durent quelques minutes, sont des systèmes d'alerte. Quand ça dure quelques minutes, même si ça récupère, comme ça ne fait pas mal, il faut absolument consulter en urgence. C'est un élément, c'est un message majeur, puisque quand on peut prendre en charge à ce moment-là les patients, quand ils sont totalement asymptomatiques et éviter qu'il y ait un accident définitif qui se constitue, même si on a des traitements, on va en parler après, qui permettent parfois quand même d'améliorer les choses, c'est hyper important de pouvoir arriver très vite, de rechercher la cause et de mettre en route un traitement très rapidement qui peut effectivement éviter la constitution de l'accident.
Bon, sauf qu'il faut bien connaître ses premiers signes avant-coureurs.
Alors, tout à fait.
Quels sont-ils alors, faire une petite liste, parce que sinon tout le monde va appeler les urgences.
Tout à fait. Donc, les symptômes les plus fréquemment rencontrés dans l'accident vasculaire cérébral, d'une part, c'est la brutalité de survenue. Donc ça, c'est très important. C'est des choses qui arrivent de façon brutale. C'est soit la perte de la force d'un côté, ce qu'on appelle une hémiplégie ou une hémiparésie. Donc, d'un seul coup, un hémicorps qui fonctionne moins bien, comme vous le lisiez dans l'extrait du livre, d'un seul coup, on perd un objet avec la main. Donc ça, c'est très important. Soit l'impression aussi que tout un hémicorps est engourdi, on le sent plus bien, on est comme un peu anesthésié. Soit on peut avoir une déviation de la face aussi, le visage qui se met de travers. Souvent, c'est les autres d'ailleurs qui s'en rendent compte. Soit un problème de langage. D'un seul coup, on n'arrive plus à trouver les mots, ou on ne comprend plus, ou on se met à dire n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment les signes les plus fréquemment rencontrés, et il faut bien considérer que c'est aussi le caractère brutal de survenue qui fait évoquer le diagnostic.
Alors justement, Sophie Crozier, beaucoup de questions sur les migraines, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent des questions là-dessus? Est-ce qu'elles sont justement un signe avant-coureur? Est-ce qu'il y a plus de risques en cas de migraine chronique ou persistante?
Alors oui, c'est une bonne question également. Alors la migraine, on la considère aujourd'hui comme un petit facteur de risque quand même pour l'accident vasculaire cérébral. C'est surtout ce qu'on appelle nous un diagnostic différentiel, c'est-à-dire que quand même les épisodes de migraine qu'on dit avec aura, c'est-à-dire avec des symptômes neurologiques, sont un diagnostic différent de l'accident vasculaire qu'on évoque.
Oui.
Mais la grosse différence, c'est que dans le cas de symptômes migraineux, on va avoir d'abord, par exemple, un trouble visuel, souvent avec des phénomènes positifs, des phénomènes un peu lumineux, puis ensuite un trouble de la sensibilité, puis parfois ça peut être un trouble du langage, et c'est suivi de maux de tête. Ça, c'est une aura migraineuse typique, les migraineux connaissent ça très bien, et ça n'est pas évocateur en soi, ça, d'un accident vasculaire. Ce qu'il faut bien faire passer comme message peut-être pour les personnes qui sont migraineuses, c'est quand si ces symptômes sont différents de ceux qu'ils ont habituellement ou durent plus longtemps, de la même façon, il vaut mieux contacter les secours ou aller aux urgences, mais il faut absolument se préoccuper du côté inhabituel du symptôme.
Donc l'entourage est très important aussi sur le repère des symptômes. On le voyait aussi dans le témoignage de Brigitte Proust tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler les urgences? Aller aux urgences ou c'est pas d'abord ce qu'il faut faire en premier?
Surtout pas. Hein. Voilà. Alors surtout pas. Quand on évoque un diagnostic d'accident vasculaire, quand ces symptômes surviennent de façon brutale, le réflexe immédiat à avoir pour l'entourage ou pour la personne quand elle est en capacité de le faire, c'est d'appeler soit le SAMU, donc le 15, soit les pompiers au 18. Donc voilà, il faut appeler un de ces deux premiers secours,
mais en général,
voilà, le 15 ou le 18, puisque de toute façon ils communiquent ensemble, avec l'idée que comme il y a une régulation, en fait, quand l'appel arrive, que ça soit le SAMU ou les pompiers vont trouver une place pour la personne au bon endroit. L'objectif majeur de la prise en charge, c'est d'arriver au bon endroit pour pouvoir
le plus
rapidement possible. Chaque minute compte, on a toujours l'habitude de dire time is brain, on l'a dit. Donc ça, c'est très important. Chaque minute est importante. Donc actuellement, il y a eu une organisation sur le territoire qui a été mise en place depuis 15 ans qui a vraiment changé la prise en charge.
L'idéal, c'est d'arriver avant les 4h30 fatidiques, c'est ça?
Oui, voilà. Mais en sachant que
le cerveau est très endommagé.
Tout à fait. Mais plus on a de temps, finalement, moins on en a. C'est-à-dire qu'il faut plus on va vite et plus le meilleur est le pronostic. Donc plus on a de chances de récupérer. Donc il faut vraiment vraiment aller très très vite.
Alors justement sur l'accès aux soins aujourd'hui, la prise en charge précisément des malades, différents outils existent aujourd'hui. On va entendre un sujet qui se passe à l'hôpital Foch de Suresnes avec le docteur Bertrand Lapergue, qui est neurologue que vous connaissez évidemment, autour de la thrombectomie. On va en parler évidemment avec vous dans un instant.
Il y a 3 mois, ils venaient de garer leur voiture pour rentrer chez eux, quand brusquement, sa femme s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Elle l'aide à s'asseoir et sans même rentrer chez eux, elle appelle les secours. En moins d'une heure, il est aux urgences. Une IRM confirme l'AVC, un AVC sévère. Il est alors dirigé vers un autre hôpital où il bénéficie d'un tout nouveau traitement. La thrombectomie mécanique, qui consiste à aller chercher le caillot directement dans le cerveau. Une sonde pénètre dans l'artère fémorale près de la hanche et remonte vers le cerveau jusqu'au caillot. L'opération est délicate. Au bout de la sonde, des petites griffes vont attraper le caillot et l'entraîner vers la sortie.
C'est maintenant un outil thérapeutique qu'on a pour les AVC très graves. Les AVC, c'est la première cause de handicap de l'adulte, la première raison de se retrouver en chaise roulante. Cette technique-là s'adresse aux AVC les plus graves. Et c'est en ça que c'est une révolution, parce que maintenant on sait qu'elle est utile.
Une technique qui fait ses preuves, elle augmente les chances de récupération de 65%.
Sophie Crozier, ça a changé beaucoup de choses dans la prise en charge justement de l'AVC, technique de la thrombectomie, c'est son nom exact, et ça fait très peu de temps finalement qu'on l'utilise.
Oui, tout à fait. Alors, c'était utilisé de façon un peu moins fréquente au cas par cas avant début 2016, et depuis début 2016, Il y a eu trois études, de grosses études qui ont été conduites et qui ont montré une efficacité effectivement supérieure. Alors, les études qui ont été conduites reposent en fait sur deux traitements associés qui sont d'une part la thrombolyse intraveineuse associée à la thrombolyse, à la thrombectomie, c'est-à-dire un geste mécanique derrière. Alors, la thrombolyse intraveineuse, qu'est-ce que c'est? C'est le traitement de référence de l'accident vasculaire autorisé depuis 2003 en France, avec des études au départ qui étaient à la fin des années 90 aux États-Unis. Et ce traitement, c'est une forme de desktop en fait pour les artères. La thrombolyse qui était utilisée aussi d'ailleurs dans l'infarctus du myocarde. L'idée étant qu'il y a un caillot dans l'artère.
On
met ça par perfusion intraveineuse. Dans le bras. Voilà, on envoie ce traitement avec un bolus et ensuite sur une heure. Et ça dissout le caillot. Mais ça dissout le caillot dans environ 30-40% des cas. Donc finalement, pas suffisamment.
Ouais, petite parenthèse, qu'est-ce qui peut expliquer la résistance du caillot?
Ça c'est aussi probablement la composition du caillot et surtout la localisation, c'est-à-dire que plus le caillot est distal, plus on a une chance de pouvoir le dissoudre avec ce traitement, plus le caillot est dans une artère plutôt proximale, c'est-à-dire une artère de plus gros calibre, plus c'est difficile. Et c'est là, d'ailleurs, souvent, il y a des gros accidents vasculaires, comme le témoignage qu'on vient d'entendre, où là, vraiment, quand l'accident est très gros, effectivement... Ouais. C'est le fait de pouvoir aller retirer le caillot avec en naviguant dans les artères et aller en allant le chercher comme ça, c'est un traitement qui améliore de façon majeure le pronostic des personnes, puisque qui dit recanalisation dit diminution du volume de l'accident vasculaire après du tissu abîmé en fait.
Donc la prise en charge c'est celle-là, elle est quasiment dans tous les cas, c'est ces deux procédés que vous venez de décrire.
Actuellement c'est le traitement idéal, optimal on va dire, en sachant que l'accès à la thrombectomie en novembre 2018 n'est pas possible dans tous les hôpitaux évidemment de France. C'est un geste très technique qui nécessite un plateau technique très particulier et surtout des compétences particulières qui sont actuellement pour l'instant assurées principalement par des radiologues très spécialisés qu'on appelle des neuroradiologues
territoriales clairement.
Tout à fait, donc ensuite c'est des transferts, on organise les choses comme on peut, mais c'est effectivement difficile.
Daniel demande sur franceinter.fr si une mauvaise circulation du sang est un facteur justement d'AVC, ce qui était le cas, dit-il, pour des membres de sa famille.
Alors, ça dépend ce qu'on entend par mauvaise circulation du sang, parce que c'est difficile. Souvent, ce qu'on entend par mauvaise circulation du sang, enfin de l'expérience que j'ai aussi dans mes consultations avec les patients, c'est plutôt une insuffisance veineuse. Donc non, a priori, le fait d'avoir un peu les jambes lourdes, des varices ou des choses comme ça, on dit souvent c'est un problème de circulation. Ça, non, c'est pas associé à un risque d'accident vasculaire. En revanche, avoir des problèmes de coagulation, oui, ça, il y a des, et ça peut être génétique. Il peut y avoir, mais c'est exceptionnel, des anomalies de coagulation. Qui peuvent entraîner à ce moment-là des accidents vasculaires.
Sophie Crozier, vous êtes notre invitée cet après-midi dans La Tête au Carré.
Entre le brouillard et le beau temps, entre le jour et la nuit, entre les larmes au vent, déconfie, mon cœur balance entre l'athlète et l'adolescent, entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, aux formes rebondies, mon cœur balance entre les deux, mon cœur balance. De tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. Thank you. près de mon cœur balancé. Entre les deux, mon cœur balancé. Entre les deux, mon cœur balancé.
Et c'était Catherine à l'instant.
La tête au carré. Sur France Inter.
Sophie Crozier, vous êtes notre invitée. Encore quelques minutes à discuter ensemble, donc justement de l'AVC, avec les questions nombreuses des auditeurs sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. L'AVC au cinéma aussi en ce moment, avec Fabrice Lucchini, L'homme pressé. Vous avez vu le film ou pas?
Pas encore, mais ouais. Je vais y aller. Oui.
Vous aviez lu peut-être l'ouvrage dont il est inspiré, hein, précisément, qui raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui, justement, un jour, voilà, se voit confronté à l'AVC. C'est un cas de figure assez classique, finalement. Hein.
Oui. Oui,
c'est sur ces assez personnes classique. Qui vivent à 100 à l'heure et qui tout d'un coup sont rattrapées aussi par l'accident vasculaire cérébral. Alors, beaucoup de questions des auditeurs et ce témoignage aussi sur la récupération. Ça, c'est très important. Évidemment, ensuite, la prise en charge des malades. On va écouter, tiens, un documentaire qui s'intéressait à cette question et on va entendre précisément quelqu'un qui est en rééducation. C'était un documentaire d'Emmanuel Finkel et on écoute ça ensemble.
Votre nom, votre prénom?
Favard Christophe.
Oui, votre date de naissance?
7 juin 72.
Vous êtes né où?
À Longjumeau.
Où est-ce qu'elle habite, votre sœur?
À Coudray-Monceau.
Non. Vos parents sont Coudray-Monceau, votre sœur, elle est à?
Hubert.
Colombes. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier?
Orthophoniste.
Non. Votre sœur, elle n'est pas orthophoniste. Elle est?
Secrétaire d'État.
Non. Secrétaire de?
Direction.
Dans quelle société?
Longjumeau. À Coubert.
Non. Dans quelle entreprise elle travaille? À la
Société Générale.
Et dans quelle ville?
Longjumeau.
Non. Votre sœur, elle est sur
Colombes.
Oui. Votre père, il s'appelle comment?
Bernard.
Qu'est-ce qu'il faisait comme métier?
Orthophoniste.
Non. Pas d'orthophoniste dans votre famille.
Je sais pas.
Votre père, il était
ingénieur en informatique.
D'accord. C'est bien.
Voilà, Sophie Crozier, ce documentaire qui s'appelle « Je suis », qui était sorti en 2012. Un exemple, justement. Alors, on peut trouver, justement, l'entretien assez brutal, presque. Mais c'est ça aussi, c'est une façon de stimuler le cerveau pour pouvoir voir où en est le patient.
Oui, tout à fait. Dans l'évaluation, là, ce qu'on pouvait entendre, effectivement, dans ce documentaire, c'est une orthophoniste, probablement, je pense, qui était en train d'évaluer le patient, chercher à lui faire dire des mots et la difficulté que la personne a à trouver les bons mots par rapport à la question qui est posée, avec on voit aussi des mots qui reviennent souvent, ce qu'on appelle des persévérations. Et donc effectivement tout le travail ensuite après l'accident vasculaire, ça va être un travail de rééducation qui débute dès les premières heures quasiment de la prise en charge, c'est-à-dire que même dans nos unités de soins intensifs, nous travaillons avec des kinésithérapeutes, avec des orthophonistes, parfois avec des ergothérapeutes également, qui permettent d'évaluer très rapidement les difficultés du patient et surtout de l'aider dès le début. Et ça, je pense que c'est un élément absolument majeur aussi, même par rapport au regard que le patient peut avoir sur lui, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est très brutal et très difficile à vivre. Donc, l'importance de montrer aussi tout ce que le patient peut être en capacité de faire, et là où il peut progresser. Donc, au début, c'est un peu difficile. Il y a une évaluation, effectivement, où on voit plutôt ce qui manque, en fait, le déficit. Et puis ensuite, une prise en charge de rééducation qui peut se poursuivre extrêmement longtemps.
Parce que beaucoup de choses sont en jeu, évidemment. La marche, la parole, l'usage de la main, tout ce qui concerne donc le langage aussi. Donc, il y a énormément de travail à faire ensuite.
Voilà. Selon le type d'accident vasculaire, c'est-à-dire selon la localisation de l'accident vasculaire, il y aura besoin de plus de kiné, parfois d'orthophonie, parfois pas toujours. Mais effectivement, ça, c'est vraiment lié à la localisation dans le cerveau de l'accident vasculaire. Oui.
Chris nous dit, j'ai fait un AVC il y a plus d'un an, faiblesse de la jambe gauche et insensibilité étant dans le domaine médical. J'ai tout de suite su ce qui m'arrivait, j'ai été pris en charge immédiatement. Je n'ai aucune séquelle car envoyé dans le bon hôpital et j'ai bénéficié d'une injection qui dissout le caillot, on en parlait tout à l'heure. Donc là, c'est la rapidité aussi qui a joué en sa faveur.
Oui, ça c'est très très important. Je pense que c'est vraiment pour ça que c'est important d'en parler régulièrement et de bien connaître les symptômes d'alerte et de savoir qu'il faut tout de suite appeler le 15 ou le 18, pas aller aux urgences pour pas perdre de temps. Parce qu'effectivement, c'est le fait d'arriver au bon endroit. Mais les urgences, après, bon, ils peuvent faire le diagnostic très rapidement quand vous arrivez, mais il y a quand même un délai ensuite. Il faut retransférer le patient ailleurs, au bon endroit, etc. Donc vraiment aller...
Il y a des unités mobiles qui existent aujourd'hui pour la rééducation aussi, c'est
Alors,
ça ?
Alors, tout à fait, oui. Ça, c'est relativement nouveau. C'est à la suite du plan AVC 2009-2014, où effectivement, on a mis en place, pour les patients qui n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge en unité neurovasculaire, ce qui est malheureusement aujourd'hui quand même la majorité, puisque seuls 40% peuvent avoir accès à cette unité neurovasculaire, qui va avoir aussi comme objectif de coordonner tous les soins derrière. Quand les patients n'ont pas pu passer par cette unité, à ce moment-là, il y a des équipes mobiles de rééducation qui peuvent à ce moment-là évaluer le patient, aider le patient aussi dans des démarches sociales. Je pense qu'il faut bien savoir que c'est hyper important parce que du jour au lendemain, on peut se retrouver avec un handicap plus ou moins important, mais en tout cas un handicap, et que ça peut nécessiter non seulement des aides à domicile, une réorganisation du logement, etc. Donc les équipes mobiles, elles peuvent faire toute cette évaluation avec des ergothérapeutes, une assistante sociale, pour pouvoir aider justement le patient et ses proches à organiser une prise en charge optimale.
Tout à l'heure, je vous lisais un passage donc, de ce livre de Brigitte Proust sur son AVC, et son mari aussi qui écrit dans cet ouvrage. Il dit « Brigitte a eu la chance de garder intactes ses facultés mentales, son investissement scientifique, elle est chimiste, je le rappelle, a été une thérapie majeure vers la résilience. Un des pires ennemis est certainement l'inactivité mentale qui déprime d'ailleurs et qui instille insidieusement la dépression chez les personnes. »
Alors oui, la dépression, elle est très fréquente, en fait, après un accident vasculaire, ce qui est
chez les aidants aussi d'ailleurs. Aussi.
Et chez les aidants, et tout à fait. Mais selon les études, c'est entre 60 et 80% des patients qui vont avoir un syndrome dépressif. C'est bien de le savoir parce que c'est pas, enfin, il faut pas en avoir honte aussi. Moi, je vois, j'ai souvent des patients qui osent pas en parler. Bon, mais c'est normal, en fait, j'allais dire après une situation comme ça. Donc, il faut accepter d'être aidé, et puis effectivement, ensuite. Ça permet d'améliorer aussi le pronostic global.
Ouais, beaucoup de questions sur la prise de micro-aspirine en prévention de l'AVC.
Ah oui, essentiel, absolument essentiel.
C'est
donc
vrai.
Dans la très grande majorité, après un accident vasculaire cérébral, on cherche la cause. Soit c'est lié au dépôt de cholestérol sur les artères, soit à de l'arythmie cardiaque. Mais si c'est, ce qui est souvent le cas, soit lié à des problèmes de dépôt de cholestérol, il faut absolument prendre de l'aspirine au long cours. Oui.
Ouais.
Et jamais l'arrêter.
Mon mari, dit Sarah, a été victime d'un AVC à 38 ans. Un sujet qui n'est pas abordé dans votre émission aujourd'hui, c'est le choc post-traumatique pour le malade et pour l'entourage. On vient d'en parler. Cet AVC a bien failli faire éclater notre famille. C'est un travail psy qui nous a fait comprendre que cette bombe, justement, était arrivée sans prévenir.
Voilà. C'est vraiment absolument essentiel, je pense, de pouvoir en parler avec les médecins qui vont ensuite prendre en charge le patient et effectivement son conjoint, sa famille, bien sûr. Ça peut vraiment bouleverser complètement la vie de la famille.
Et d'ailleurs, Dominique Proust dit au sujet de l'AVC de sa femme, il faut rester aidant mais savoir contrôler jusqu'à quelle limite il est raisonnable de s'investir sans y laisser ses forces et son âme dans l'intérêt des deux.
C'est d'ailleurs vrai, ça. Oui, parce que parfois on voit le conjoint a tendance à être surprotecteur, à être plus dans son rôle aussi de conjoint mais plus dans le rôle d'aidant, et donc c'est toujours difficile de trouver la bonne distance.
Le bon équilibre, effectivement. Est-il vrai que de nombreux mini-AVC peuvent à long terme déboucher sur la maladie d'Alzheimer? Quelles sont les études là-dessus?
Oui, alors pas sur la maladie d'Alzheimer, mais sur une forme de démence. Oui. Il faut savoir que la première cause de démence, c'est la maladie d'Alzheimer, mais la deuxième cause de démence, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Soit parce qu'il y a eu plusieurs accidents, de gros accidents vasculaires cérébraux, soit effectivement plein de petits accidents vasculaires qui peuvent conduire à des troubles cognitifs, donc à une situation de démence. Et puis, il y a une association aussi entre accident vasculaire et maladie d'Alzheimer. Mais la question de l'auditeur, je pense que c'était vraiment plus lié au fait qu'effectivement, on peut développer des troubles cognitifs majeurs et un tableau de démence après des accidents vasculaires cérébraux répétés.
Et chez l'enfant, demande Sylvie, qu'est-ce qui favorise l'AVC? Ça, c'est les cas sont rares, j'imagine, quand même.
Oui, les cas sont rares. Alors, c'est souvent quand même des causes un peu, vraiment très, très différentes de celles de chez l'adulte, bien sûr. Des problèmes de coagulation, des problèmes de cardiaque aussi, des cardiopathies génitales parfois, donc ou chez certaines personnes, notamment les personnes d'origine africaine, la drépanocytose qui entraîne des gros troubles de coagulation, donc ça on en voit effectivement chez des sujets très jeunes.
L'apnée du sommeil, est-ce que c'est un risque pour l'AVC?
C'est un facteur de risque vasculaire parce que ça augmente la tension artérielle, notamment pendant la nuit, donc c'est considéré comme un facteur de risque, mais moins important, on va dire, que les autres.
Et enfin, Dominique, on termine avec ça, demande s'il y a des aliments qui permettraient de prévenir l'AVC, faut-il manger ou non de la viande?
Alors,
compliqué de répondre à cette question.
Il faut faire attention à ce qu'on mange, ça c'est sûr, c'est devenu un message absolument majeur, et oui, l'alimentation il faut y faire attention, essayer de manger pas trop gras, bien sûr, oui, c'est sûr, mais il n'y a pas un aliment protecteur en soi par contre.
Merci beaucoup en tout cas Sophie Crozier d'être venue cet après-midi au micro de La Tête au Carré. Émission à réécouter sur franceinter.fr bien sûr. Et puis on peut également aller au cinéma pour voir L'Homme pressé avec Fabrice Luchini ou lire cet ouvrage de Brigitte Proust qui s'appelle Manuel de reconstruction à l'usage des personnes victimes d'un AVC. Et c'est paru chez HD Témoignages. Merci à vous.
Merci
au revoir.
À vous.